France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Raël et les Raéliens. Voilà plus de 40 ans que ce nom revient à la une de l'actualité de manière épisodique. Derrière ce pseudonyme mystérieux, Raël, se cache un Français du nom de Claude Vorion. Attiré par la célébrité depuis sa jeunesse, il a d'abord tenté sa chance comme chanteur. Ce fut un échec. Il s'est alors improvisé journaliste, puis rédacteur en chef, là non plus sans grand succès. C'est alors qu'une prétendue rencontre avec des extraterrestres aurait changé le cours de sa vie. Vorillon aurait accepté la mission d'aider le peuple créateur de l'humanité à revenir un jour sur Terre, je reprends ces mots, et serait devenu leur messager. Nom de code, Raël. La suite de cette histoire, c'est une série de coups d'éclat et de polémiques autour de cet individu et de son mouvement, les Raéliens, une secte derrière laquelle on trouve de graves soupçons d'abus sexuels, d'abus de faiblesse et d'extorsion. D'ailleurs, le mouvement raélien fait partie de la liste des organisations surveillées par la MIVILUD, la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires. Certains raéliens ont été condamnés par la justice pour pédocriminalité. Notre invité aujourd'hui, François-Xavier Beaudouin, professeur d'histoire et docteur en sociologie des religions à l'EHESS Paris et auteur d'une thèse et de deux livres sur Raël, un connaisseur. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Cara. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donante. Réalisation, Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Madame, Monsieur, bonjour. Sommes-nous, sur les terres, les seuls êtres vivants et pensants de l'univers entier? Voilà une question qui taraude les esprits depuis toujours, au même titre que celle de l'existence de Dieu. Des témoignages d'hommes et de femmes du monde entier annoncent l'arrivée d'êtres venus d'ailleurs, à bord de curieux engins. Ils les ont vus, mieux, certains affirment avoir communiqué avec eux. Aujourd'hui, dans À tout cœur et pour la première fois, je reçois un homme qui se dit être le messager des extraterrestres. Il est porteur d'un message, des télévisions françaises et étrangères en ont largement fait l'écho. Depuis 1973, ce messager est parmi nous, il s'appelle Raël.
Vendredi 31 mars 1989, Maison de la Radio, Paris. Derrière la vitre d'un studio d'enregistrement, une dizaine de personnes s'agglutinent. Chacune d'entre elles tente d'apercevoir l'étrange individu assis face au micro du journaliste Francis Colneau. Un quart d'heure plus tôt, cet homme de taille moyenne, le corps élancé, le visage souriant, s'est présenté à la porte d'entrée de Radio France. En cette veille de 1er avril, les agents du service de sécurité pensent d'abord à un canular. Le producteur de l'émission leur assure que non, cet homme est bien invité sur Radio Bleu, ancêtre de France Bleu Paris. Si le service d'ordre est si méfiant, c'est parce que l'accoutrement de cet homme d'une quarantaine d'années a de quoi surprendre. Il porte une longue toge blanche, elle-même recouverte sur le torse et les épaules par une épaisse cotte d'armes. Un costume qu'on croirait tout droit sorti de Star Wars. Autour du cou, ridicule mais satisfait, ce drôle de personnage arbore une large médaille dorée au motif insolite, une breloque qui joint deux signes, une étoile de David, symbole de la religion juive, faut-il le rappeler, et une swastika, autrement dit, une croix gammée. Le ton est donné. Enfin, son visage et sa coiffure donnent l'impression d'appartenir à un personnage de la Bible, étrange syncrétisme entre Moïse et savant fou, large collier de barbe, moustache méticuleusement taillée, le haut du crâne dégarni et, pour finir la description, une épaisse chevelure bouclée.
Raël, bonjour.
Bonjour.
Je vous appelle tel que vous vous prénommez ou vous dénommez, Raël. Est-ce votre vrai prénom?
C'est le nom que j'utilise depuis 15 ans, c'est le seul que j'utilise.
Oui. Est-ce que les initiales ont un sens précis ou est-ce que le mot a un sens particulier?
Le mot signifie « messager » dans la langue que parlent ces êtres.
Bien, alors nous allons revenir bien sûr aux détails de toute cette aventure, on peut le dire, cette aventure humaine qui vient jusqu'à nous. Je voudrais simplement signaler que vous-même, Raël, ce soir à l'Espace Cardin, vous donnerez une conférence au sujet des extraterrestres et de ce message dont vous êtes détenteur.
chaque question du journaliste, Raël, de sa voix de velours, offre des réponses pleines de bon sens, tout en essayant de faire passer un message généreux, didactique, presque naïf, sur le monde qui nous entoure et la mission qu'il s'est vu confier. Dans l'une des poches de sa longue toge, il dispose, comme tous les Français, d'une carte d'identité. Un document sur lequel apparaît son véritable nom, Claude Vorillon. Un homme né le 30 septembre 1946 dans une famille de notables de la région de Vichy et dont la jeunesse fut mouvementée. Mais ça n'intéresse pas vraiment Francis Colneau. Non, comme tous ceux qui interviewent Raël, le journaliste de Radio Bleu veut surtout entendre l'histoire de sa rencontre avec les extraterrestres. Un épisode rocambolesque dont il est le seul témoin. Une affaire qui nous replonge 15 ans plus tôt, quelque part au milieu des volcans d'Auvergne. Le matin du 13 décembre 1973, Claude Vorillon se rend à son travail. Le jeune homme de 27 ans roule à bord de sa voiture en direction du centre-ville Clermont-Ferrand. Autour de lui, tout est calme. C'est alors qu'il ressent quelque chose d'étrange et qu'il décrira plus tard comme une force indiscernable qui le pousse à changer de direction. Il tourne à gauche et rejoint la route du parc des volcans. 10 kilomètres plus tard, alors qu'il se trouve au pied du volcan du puits de La Solace, Vorillon arrête son véhicule. Il se met alors à marcher pour rejoindre le centre du cratère. Après plusieurs heures d'efforts, il réalise, c'est en tout cas ce qu'il expliquera plus tard, de ne pas comprendre ce qu'il fait là. Ce dont Vorillon se souvient, c'est la lumière clignotante, sorte de flash répété d'appareil photo, qui apparaît dans le ciel. Derrière, il distingue une sorte d'objet volant à la forme de cloche aplatie. Celui-ci se déplace sans un bruit. D'après ses estimations, l'objet en question fait 10 mètres de diamètre, pèse plusieurs tonnes et il est recouvert d'un métal argenté. Au fil des minutes, il se rapproche du sol. La suite, c'est Vorillon lui-même qui la raconte.
Sous l'engin, une espèce de trappe s'ouvre doucement, un escalier au-dessus, deux pieds apparaissent, deux jambes, et le corps entier d'un être tout petit, environ 1m40, et qui a un visage tout à fait humain, qui a un corps humain, simplement des yeux très étirés sur les tempes, très larges, très en amande. Il s'approche vers moi, il a la peau blanche, légèrement olivâtre, il a le cheveu noir très raide, tombant sur ses épaules, il a une petite barbe noire, un petit peu comme le visage de certains sages asiatiques. Et il marche très doucement, pas un peu à droite, pas un peu à gauche, mais vraiment sur moi. Car au début, j'espérais presque qu'il ne me voyait pas. J'espérais qu'il ne m'avait pas vu. Et puis, il marche droit sur moi. Il avance, et quand il est à 2 mètres de moi, je risque une question, plutôt pour voir s'il me comprend. Et j'ai une réponse en français parfaite. Et il m'explique ensuite qu'ils peuvent parler toutes les langues du monde, parce qu'ils ont 25 000 ans d'avance sur nous.
Toujours d'après le récit qu'en fait Claude Vorillon, ce petit être serait membre de la civilisation originelle dite des Elohim. Un peuple qui aurait, explique-t-il, créé la vie sur Terre en laboratoire, ainsi que tout le vivant qui nous entoure. Animaux, plantes et écosystèmes, océans, montagnes. Tout cela grâce à la maîtrise parfaite de la science et de l'ADN. L'Illuminé raconte ensuite que dans la Bible traditionnelle, il n'est pas écrit « Dieu a fait le premier jour ». Non, d'après lui, il est inscrit « Elohim a fait le premier jour ». C'est donc, selon lui, une erreur de traduction entre l'hébreu et le grec, puis entre le grec et le latin, qui fait que le monde chrétien confond Dieu avec les Elohim depuis plus de 2000 ans. Bien, toujours d'après le récit de Vorillon, les Elohim l'ont alors choisi pour être leur messager et informer l'humanité de leur retour sur Terre.
Nous avons l'immense privilège d'être les premiers à pouvoir lire la Bible en la comprenant, grâce au message donné par ces êtres. Alors quelle mission elle me donne, et je conclurai le résumé avec ça, c'est diffuser ces messages partout sur la Terre qui démystifient toutes les religions et construisez une ambassade. Il faut qu'on construise une ambassade, si possible près de Jérusalem, où ils viendront officiellement pour contacter la presse mondiale et les gouvernements de la Terre.
Le récit de Claude Vorillon semble tout droit sorti d'un cerveau passablement dérangé, mais dès le début, son histoire plaît au public et elle vaut à son auteur d'être invité par les journalistes pour en parler. Rappelons qu'au milieu des années 70, les ovnis et autres phénomènes inexpliqués ont le vent en poupe. Le cinéma, avec 2001 ou l'Odyssée de l'espace, et par la suite Rencontre du troisième type, ou encore la série à succès Star Wars, témoignent de l'engouement du public pour le sujet. En 1974, soit 15 ans avant son interview à Radio France, Claude Vorilon est même invité par Jacques Chancel sur le plateau de sa très sérieuse émission Le Grand Échiquier. C'est ce programme qui révèle Raël. Et c'est ce jour-là, précisément, que la sphère médiatique fait de lui un objet de divertissement. Raël raconte une histoire loufoque, il porte un habit loufoque, et le public adore. Ce que Chancel ne comprend pas, c'est qu'il donne une tribune et une légitimité à ce type face à des millions de Français. Et c'est ainsi que devant les caméras, Raël lance son message et appelle à se rassembler derrière lui pour, dit-il, aider les Elohim, notre peuple fondateur, de pouvoir revenir un jour sur Terre. Précisons que, à ce moment-là, Claude Vorilon est à la fois sans emploi et sans le sou. Il publie un livre, intitulé « Le livre de la vérité », dans lequel il raconte sa rencontre de 1973. Puis il crée son mouvement, le MADEC, mouvement pour l'accueil des Elohim créateurs de l'humanité. Interrogés dans la rue, les Français restent tout de même assez dubitatifs sur l'histoire de Raël et des Elohim. Pour autant, ils n'écartent pas l'idée de l'existence d'une autre forme de vie dans l'univers.
Vous imagineriez, en fin de compte, ce soit les extraterrestres qui vous aient, enfin, qui nous aient préparés dans leur laboratoire.
C'est difficile à dire. Moi, j'y crois pas.
Mais vous repoussez pas l'hypothèse?
Non, mais enfin, j'y crois pas.
Mais il peut y avoir une autre culture au-delà de notre planète. Je pense qu'elle existe.
Ah, moi, j'y crois pas.
Non?
Non, je pense pas quand même. La réincarnation peut-être, mais les extraterrestres, je crois pas.
L'existence d'une forme de vie ailleurs que sur la Terre, oui, bien sûr, les scientifiques n'ont jamais écarté l'hypothèse. Mais on est loin des élucubrations de Raël. Ce qui n'empêche pas ce dernier de raconter, dans un nouveau livre, être une nouvelle fois invité par les extraterrestres, malgré lui, précise-t-il. D'après ses dires, les Elohim l'auraient emmené sur leur planète. Sur place, Raël aurait alors rencontré Jésus, Moïse, Mahomet et Bouddha. C'est mieux à plusieurs. Et c'est à ce moment précis que les Elohim lui auraient affirmé que sa mère a été inséminée par l'un d'entre eux. Il serait donc le demi-frère de tous les prophètes de toutes les religions sur Terre. Déjà qu'au nom de ceux qu'on reconnaît comme tels, on se fait la guerre, en voilà un de plus sur la liste, pas forcément une bonne nouvelle. C'est toujours lors de cette deuxième rencontre que Raël, devenu officiellement prophète, se serait vu confier une mission par les Elohim, préparer leur retour sur Terre, en construisant une ambassade pour les accueillir. Date de l'arrivée des petits êtres en soucoupe volante, au plus tard en 2035. Pour construire une ambassade avec une piste d'atterrissage pour vaisseaux spatiaux, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Cela est d'autant plus vrai que Raël dessine des plans du projet qui incluent des piscines, des jardins et des villas de luxe, un cadre digne d'un palais des mille et une nuits. Pour réussir à financer cette folie, il demande alors aux personnes qui rejoignent son mouvement de reverser 10% de leur salaire pour participer à la construction. À cela s'ajoute 1% de cotisation afin d'assurer au prophète qu'il ait une vie confortable dans l'attente de l'arrivée des extraterrestres. Au début des années 80, les fidèles de Raël se comptent par milliers. Il s'agit souvent de familles entières, de groupes d'amis, avec une grande majorité de francophones, français, canadiens, mais aussi beaucoup de nos voisins suisses. Si l'ambassade doit en théorie être construite à Jérusalem, Raël lui héberge son association et domicilie son compte bancaire en territoire suisse, où l'on sait que les banques ne sont pas regardantes sur l'origine des fonds et très attachées au strict respect du secret bancaire. L'histoire de Raël, qui rencontre des extraterrestres et qui prépare leur arrivée sur Terre comme une conciergerie de centre de vacances, est évidemment une histoire à dormir debout. Mais qui ne surprend pas tant que ça, quand on connaît le parcours de vie de celui qui se fait appeler le dernier des prophètes.
Sacré sale gueule, que je ne t'avale, depuis bien tôt, 20 ans, sacrée sale gueule, qui va si mal, à 5 mois du printemps. On dit que c'est au printemps que poussent les boîtes senteurs, mais tu sais toi, en venant, tu m'as vraiment pas fait une fleur.
La voix que vous venez d'entendre est celle de Raël, à l'époque où celui-ci se faisait encore appeler Claude Vorilon, ou plutôt par son nom de scène, Claude Seller. Pour les uns, chansonnier léger, pour les autres, chanteur raté, Claude Seller est surnommé le petit Brel par certains producteurs, en raison de sa ressemblance physique et des intonations, c'est vrai, qu'il partage avec le chanteur belge. Et bon an mal an, il réussit à produire un 45 tours au début des années 60 avec des chansons comme « Sacré sale gueule » qu'on a entendu, en référence à son acné brûlante, « Madame Pipi » ou « Miel et cannelle ». Aucune d'entre elles ne restera dans les mémoires. C'est déjà ça. Et son aventure musicale s'arrête là. Retour à la case départ, donc. Claude Vorilon se penche alors vers sa seconde passion, le sport automobile. Il crée un petit journal baptisé « Autopop » où il essaie des voitures de sport. Mais là aussi, la durée de ce vide projet sera de courte durée. Le choc pétrolier de 73 pousse le Premier ministre d'alors, Pierre Messmer, à interdire les compétitions automobiles en France pour économiser du carburant. Conséquence, le journal de Claude Vorilon met la clé sous la porte en décembre de la même année. Deux semaines plus tard, il rencontre les extraterrestres dans le cratère d'un volcan d'Auvergne et se transforme en Raël. Si l'on peut légitimement s'interroger sur la proximité entre ces deux événements, il y a autre chose, de bien plus troublant. Au fil des années, en effet, et des interviews, le récit fait de Raël change concernant les extraterrestres. Oh, ce sont parfois des points de détail, une couleur, une description, des propos qu'on lui a tenus, où ce sont des scènes entières, comme lorsqu'il se serait retrouvé aux côtés de Bouddha, Mahomet, Moïse et Jésus, une rencontre qu'il va raconter de manière différente suivant les époques. Comme si en fait, il inventait et réinventait sa propre histoire. Mais bien plus grave, derrière l'aspect loufoque de son mouvement qui croit aux extraterrestres et qui ripaille avec les quatre prophètes et quatre grandes religions, se cachent d'autres affaires bien plus graves. Hypersexualisation des femmes, eugénisme, abus de faiblesse, détournement de fonds.
Faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frères. pris-le au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leur fibre nerveuse. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazo, mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar. Et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.
Affaires sensibles aujourd'hui sur France Inter, sectes, clonage et soucoupes volantes, voyage aux frontières du Raël.
Affaires sensibles sur France Inter.
Être raëlien, en fait, c'est prendre conscience de l'existence de l'infini du temps et de l'espace, et puis d'avoir un mode de vie qui peut apporter non seulement à soi-même du plaisir, mais aussi de rendre finalement son entourage heureux, et ceci par une tolérance qui est tout à fait nécessaire.
La voix que vous venez d'entendre est celle du guide raëlien Philippe Chabloz. Il s'exprime face à la caméra de France 3 en 1989. Comme tous les raëliens, il répète inlassablement qu'un jour, la science confirmera le message venu des étoiles. Vous verrez. Autrement dit, un jour, les avancées scientifiques prouveront les dires de Raël, prophète des Elohim. Pourtant, dans la vie de tous les jours, les Raëliens sont des citoyens comme les autres. Ils vivent normalement, travaillent normalement, envoient leurs enfants dans les écoles, normal. La seule différence notable, c'est l'interdiction qu'ils ont de consommer toute substance addictive. Thé, café, sucre, alcool ou tabac, c'est une règle qu'a fixée Raël, elle vaut pour tous, sauf pour lui. Chez les Raëliens, la connaissance scientifique est un graal, dont seuls les Elohim, avec leurs 25 000 ans d'avance, sont les maîtres. Mais au-delà de cette approche, Raël défend aussi une vision hédoniste de la vie, dont le pilier est le sexe, omniprésent dans les rassemblements raëliens, genre méditation sensuelle, pour, je cite, « atteindre l'orgasme cosmique ». Lors de ces épisodes, il arrive fréquemment qu'on demande aux membres de se déshabiller, de procéder à des attouchements, tous nus. À chaque fois, cela prend les allures d'un jeu, d'une initiation, d'une découverte. Dans ce petit monde qui vit en vase clos, Raël, tel un monarque, s'octroie le privilège de décerner des titres aux femmes. Parmi elles, les anges. Elles sont au service des Elohim et, bien sûr, à son service. Elles sont choisies sur l'unique critère de la beauté et de l'obéissance. Certaines d'entre elles se voient décerner par Raël le titre de cordon doré, auquel s'ajoute la très prestigieuse plume rose. Pour recevoir cette distinction, les femmes choisies par Raël, dont certaines sont à peine majeures, doivent s'engager par écrit, sous la forme d'un contrat, de n'avoir de relations sexuelles qu'avec Raël. Elles doivent aussi passer un test de dépistage pour le sida et les maladies sexuellement transmissibles, si elles veulent pouvoir honorer leur titre et s'occuper du confort sexuel de leur prophète. Comme l'explique le journaliste Xavier Pasquini, auteur d'une enquête sur la secte, le mode de fonctionnement des Raëliens est concentré entre les mains de Raël.
Ils rêvent d'un monde bâti sur la géniocratie, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que les génies qui pourraient voter, être élus et dirigés, puis les autres, eh bien, se contenteraient d'être des esclaves. Et lui a des projets pour l'humanité, mais des projets qui évoluent. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, il expliquait donc dans son enseignement que les extraterrestres pouvaient communiquer des informations par injonction de matière cervicale mémorielle. Alors ça, c'est très fort. Il y a quelques années, il demandait à ses adeptes de signer un papier comme quoi il fallait préserver un bout d'ours frontal à partir duquel on pourrait rebâtir quand la science en aurait les moyens.
Au début des années 90, le mouvement raélien affirme être présent dans plus de 40 pays et compter un peu plus de 30 000 membres. Des chiffres impossibles à vérifier. Quoi qu'il en soit, pendant que ses membres travaillent et épargnent chaque mois 10% de leur salaire pour la construction de la future ambassade des Elohim, Raël vit un rêve éveillé à plus de 200 km/h sur les circuits de course automobile. Grâce à l'argent que lui reversent chaque mois les Raéliens pour assurer son train de vie, le prophète autoproclamé s'inscrit dans un prestigieux championnat de voitures de course. Il participe à des manches du championnat du monde aux côtés des coéquipiers chevronnés dans l'écurie de Paul Belmondo. Au terme de plusieurs saisons, un constat s'impose. Raël n'aurait pas dû oublier le principe selon lequel nul n'est prophète dans son pays. Car les Elohim et leur avance technologique illimitée n'y font rien. Sur la quinzaine de courses à laquelle il participe, il est contraint la plupart du temps à l'abandon. Casse mécanique ou sortie de piste. Le véritable tournant intervient en 1995, lorsque le mouvement raélien est classé sur la liste des sectes dangereuses par une commission d'enquête parlementaire. En cause, les exigences financières de l'organisation sur ses membres, considérées par certains députés comme de l'abus de faiblesse. À cela s'ajoutent des soupçons sur de possibles abus sexuels et sur des pratiques festives qui mêleraient des enfants mineurs, nus, au contact d'adultes majeurs qu'on n'imagine pas non plus habillés. Des témoignages accablants qui ne débouchent pourtant sur aucune procédure judiciaire, les victimes refusant à chaque fois de porter plainte. C'est dans ce contexte très tendu que Raël quitte la France. Il part s'installer au Québec. C'est là qu'il va reconstruire son mouvement. Et c'est là également que, quelques années plus tard, il va de nouveau faire parler de lui dans une nouvelle histoire hallucinante où il est question cette fois de clonage humain.
Bonsoir. Inquiétant et peut-être vrai, la secte des Raéliens confirme avoir réalisé le premier clone humain. Il s'agirait d'une petite fille prénommée Ève, mais nul n'a encore la preuve de cette annonce qui divise et terrifie en même temps le monde des scientifiques.
Vendredi 27 décembre 2002, Maison de la Radio au Paris. Quelques jours après les fêtes de Noël, l'information sur l'existence d'un premier bébé cloné provoque une onde de choc dans l'opinion et chez les scientifiques du monde entier. Quelques heures plus tôt en effet, Brigitte Boisselier, une chimiste française, membre de la secte des Raéliens, annonce lors d'une conférence de presse aux États-Unis la naissance de la petite Ève, donc premier bébé issu du clonage. L'enfant se renaît la veille à 11h55 dans un pays tenu secret. De cette naissance, il n'y a aucune photo, aucun test ADN, aucune expertise médicale. Seul élément de détail communiqué, le bébé pèserait 3,1 kg et serait en bonne santé. Voilà presque 30 ans que Raël a fait du clonage l'un des piliers de son histoire. Car c'est cette technique qui doit permettre aux Raéliens de faire un pas vers la vie éternelle. Ils en sont persuadés. En plus de cette première naissance, le mouvement raélien annonce par la voix de Brigitte Boisselier, toujours elle, que deux autres bébés clonés sont appelés à naître dans les prochaines semaines en Europe et en Asie. Interrogée par les journalistes, elle livre des détails sur la petite Ève.
The baby is very healthy. She's fine. She's doing fine. The parents are happy.
Le bébé est en très bonne santé. Il va bien. Les parents sont heureux. Et j'espère que vous vous rappellerez d'eux quand vous parlerez de l'enfant. Non pas comme d'un monstre, non pas comme le résultat de quelque chose de dégoûtant. Les parents sont de nationalité américaine. La mère a 31 ans. C'est elle qui a été clonée et qui a porté son bébé. La meilleure preuve probablement que l'on puisse avoir, c'est la grand-mère qui s'est exclamée que le bébé ressemblait à sa mère comme deux gouttes d'eau. J'étais vraiment excitée quand j'ai entendu, car je n'avais pas pu assister à la naissance. C'était donc une très bonne nouvelle. »
Derrière cette histoire de prétendu clonage humain se cache en réalité une entreprise biomédicale dont on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle a été créée par des proches de Raël, qu'elle s'appelle Cloned, mais ne fournit aucune information sur la localisation de son laboratoire, ni sur ses moyens de recherche, ni sur son financement. Ce que les journalistes découvrent, c'est que côté commerce, Cloned partage toutes les informations nécessaires pour que de possibles clients se lancent eux aussi dans le clonage. Facture de l'opération, un peu plus de $200,000. Parmi ceux qui vont croire à cette gigantesque supercherie, il y a un avocat américain de l'État de Virginie. Comme le rapporte le journaliste Jean-Michel Dumay dans les colonnes du journal Le Monde, cet homme d'une cinquantaine d'années, père d'un enfant de 10 mois décédé d'un accident chirurgical, se porte copartenaire du projet et investit l'argent qu'il avait obtenu de son procès contre l'hôpital. Mais s'estimant floué, il se retirera de l'opération un an plus tard. Il ne reverra jamais son argent. Pendant ce temps, Raël est auditionné par le Congrès des États-Unis au même titre que des scientifiques, des responsables d'associations et des représentants d'agences gouvernementales. Sur les quelques images qui seront partagées dans la presse, il porte fièrement sa longue toge blanche, sa cotte d'armes et son médaillon. Parmi ceux qui restent très sceptiques sur la capacité des Raéliens à savoir cloner un être humain, le généticien Axel Kahn. Au micro de France Inter, il exprime de sérieux doutes sur l'opération.
Si on me demande si un jour on verra des petits garçons ou des petites filles clonées, j'en suis persuadé et je le dis depuis de nombreuses années. Cela dit, ça s'est révélé plus difficile techniquement qu'on ne le pensait. Donc maintenant, si vous m'affirmez, est-ce que le premier petit garçon ou la première petite fille, en l'occurrence clonée, c'est celle dont les Raéliens ont annoncé la naissance, j'en sais strictement rien. D'un côté, ils ont des atouts, et d'un autre côté, ils n'en ont pas. Alors, quels sont les atouts des Raéliens ? C'est vrai que les Raéliens sont riches et qu'ils ont pu s'attirer les services de scientifiques plus ou moins dévoyés. Il y a, chez les animaux où ça marche le mieux, c'est-à-dire les vaches et les souris, simplement 1% de succès. Donc, vous voyez le nombre d'ovules et de ventres nécessaires pour tenter l'expérience. Deuxièmement, quand les petits mammifères clonés naissent, dans certaines espèces, environ la moitié d'entre eux meurent avec des malformations diverses. Vous voyez bien ici que si jamais c'est vrai, des scientifiques, alors même qu'il y a un risque important, ont tenté sans filet une nouvelle technique, comme ils auraient tenté une nouvelle technique pour mettre sur le marché des saucisses. On est vraiment dans l'absurde et dans le scandaleux.
Quelques heures plus tard, c'est cette fois un communiqué de l'Élysée qui donne une nouvelle tournure à l'affaire. Le président de la République, Jacques Chirac, condamne tout acte de clonage et appelle à un moratoire et à la création d'une législation internationale afin d'éviter la mise en place de cette pratique scientifique à l'échelle industrielle. Quelques mois plus tard, au printemps de l'année 2003, courage Fuyon, face au scandale que provoque l'affaire du bébé cloné et l'absence de preuves apportées par les Raéliens, Raël en personne se dissocie de toute cette affaire et reporte la responsabilité sur Brigitte Boisselier et d'autres cadres de son association. C'est l'année 2003 qui marque le début de sa chute et de son mouvement. Il y a d'abord les effets dévastateurs de la fausse histoire de bébé cloné qui jette le discrédit. Il y a ensuite une séquence largement relayée d'une émission de divertissement télévisée au Canada dans laquelle Raël est moqué et même menacé par l'un des invités. S'ensuit l'enquête fouillée de deux journalistes québécois qui dévoilent, eux, les coulisses de l'organisation. Abus de faiblesse, dérives sexuelles et sectaires. Dès lors, les choses s'accélèrent. Raël quitte le Québec et part vivre au Japon où il dispose sur place d'une petite communauté prête à l'accueillir et à subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, les histoires les plus folles circulent sur le prophète Raël et son mouvement. Celui-ci serait présent dans plus de 120 pays et compterait plus de 100 000 membres. Mais la réalité est tout autre. Certains chercheurs estiment que le nombre réel de membres du mouvement ne dépasserait pas le millier d'individus. Chanteur, pilote de course, automobile, prophète, l'homme qui a rencontré les extraterrestres et demi-frère de Jésus, Raël, aurait eu des relations sexuelles avec plus de 15 000 femmes, d'après certains membres de son mouvement. Si Claude Vorilon n'a jamais été entendu par la justice, ni condamné, Il existe cependant de graves soupçons contre lui pour détournement de fonds et abus sexuels. Il vit aujourd'hui reclus au Japon donc, avec l'argent qui devait servir à construire l'ambassade des Elohim, peuple créateur qui doit venir sur Terre. Son arrivée est toujours prévue en 2035. Save the date. Aujourd'hui, Raël et les Raéliens. Notre invité, François-Xavier Beaudouin. Bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire et docteur en sociologie des religions, notamment pour le HESS à Paris, vous êtes l'auteur d'une thèse et de deux livres d'enquête sur Raël. Le dernier est intitulé « Le mouvement raélien dévoilé aux profanes, Raël et les mirages d'Internet » et paru aux éditions L'Harmattan en décembre dernier. Vous avez rencontré Raël, vous le connaissez?
Oui,
personnellement,
oui.
Bien. Alors vous allez me parler de lui. Qui est cet homme? Qui est-il hors caméra? Comment se comporte-t-il au-delà de ce qu'on a entendu et ce qu'on a dit sur lui?
Alors, j'ai fait la connaissance de Raël lors de la deuxième édition de l'Université du Bonheur, qui est le séminaire raélien international européen, qui se trouve en Slovénie, puisque en France, à cause d'une loi qui a été adoptée en 2004 pour apologie du clonage humain, Raël est persona non grata. Je l'ai rencontré lors de la deuxième édition, ce qui était bien pour moi, puisque j'ai pu voir et juger le contraste entre la première et la seconde édition. Dans des circonstances très particulières et parfaitement théâtrales, puisque, comme je connaissais déjà la première édition, les séminaires de formation où Raël intervient se déroulent le matin, et l'après-midi, donc moi je me suis un peu promené parce que je ne voulais pas participer aux ateliers, et je l'ai vu. En train de m'observer du coin de l'œil, puisque il savait qui j'étais, en train de jouer un petit peu une comédie, je l'interprétais comme ça, en pleine méditation, en plein échange avec les Elohim. Ça, c'est ma première rencontre de loin, puisque j'avais déjà conversé avec lui plusieurs fois sur Facebook. Raël est joignable sur Facebook. Alors, on m'a fait sous-entendre que c'était un privilège extraordinaire, une faveur ultime que de pouvoir rencontrer le prophète. On m'a fait sous-entendre que peut-être le rencontrerais-je à la fin de la semaine si j'avais de la chance.
Et vous avez eu de la chance.
Et oui, puisque le lendemain même, à ma sortie du chapiteau, je rencontre Raël.
Et alors, quelle impression il vous fait d'emblée?
Alors, l'impression qu'il me fait, alors c'est une bonne question puisque c'est vraiment au cœur de ma recherche. Dans quelle mesure peut-on croire justement à un tel personnage? Et dans quelle mesure, c'est en filigrane de votre émission, y a-t-il un contraste entre le côté doudingue et le côté manipulateur? Alors moi, je l'ai rencontré en toute transparence. Il savait qui j'étais. J'étais un sociologue avec la perspective de pouvoir être convaincu par lui si j'étais convaincu humainement. Mais ça a été loin d'être le cas. Donc la rencontre s'est très bien passée. Mais pour moi, Raël est le type même du leader charismatique manipulateur, dans le sens où, en fait, il recouvre toutes les caractéristiques de leader charismatique.
Et de gourou de secte.
Exactement.
Avec abus sexuels, avec les femmes qui doivent avoir des rapports qu'avec lui, avec les autres, avec les extorsions de fonds. On prend 10% pour soi-disant construire l'édifice, mais c'est pour construire sa vie personnelle. Ça coche toutes les cases, en fait.
Oui, d'autant plus qu'il expérimente, il met à profit non pas la sensation du grand leader politique, mais celle d'être la réincarnation d'un prophète.
Carrément.
Imaginez-vous l'extase.
Alors après, l'autre question qu'on se pose toujours, mais comment des gens peuvent-ils croire à ça? Il n'y a pas que des demi-cerveaux dans les sectes. Il y a des gens qui ont une vie avant tout à fait normale, qui réfléchissent, qui sont structurés, qui tombent là-dedans. Alors, l'un des arguments au centre du discours de Raël pour justifier toute son histoire et la légitimité de sa prétendue mission, ce serait, on l'a dit, une erreur de traduction dans la Bible. Alors, je vous propose d'écouter ce que l'un des membres de la secte explique.
Alors pour vous, ça veut dire que la Bible, les gens en ont fait une fausse interprétation. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une mauvaise interprétation au départ, puisque la Bible contemporaine que l'on connaît aujourd'hui a été donc traduite, retraduite et retransformée. On a traduit notamment un mot qui s'appelle Elohim, qui veut dire littéralement en hébreu ancien ceux qui sont venus du ciel. Et ce mot Elohim, on l'a traduit par le mot Dieu, c'est-à-dire qu'on a fait d'une pluralité un singulier. Et c'est effectivement une erreur, disons, fondamentale, car ça change un petit peu toutes les données du problème.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Et je reviens à la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes tombent dans le panneau? Alors, et le regrette, parce que c'est souvent des scénarios dramatiques.
Oui, bien sûr. Alors, à mon sens, déjà, il faut préciser que les membres de telles organisations sont à l'inverse du sketch fameux sur les inconnus Skippy. Ce ne sont pas des gens qui sont lobotomisés, ce sont des gens qui sont parfaitement intelligents, qui cherchent simplement des réponses, puisque la modernité et la modernité religieuse fait que justement les grandes structures ecclésiastiques ne donne plus vraiment de repères. La société, souvent à commencer par les hommes politiques, se fourvoie assez souvent malheureusement. Et donc, le leader charismatique va donner une réponse qui va donner un sens, qui va remettre en question toutes ces perspectives et qui va justement répondre à un besoin, le besoin de trouver finalement un leader et un sens à sa vie.
Ouais. Alors, c'est la porte ouverte aussi à une gouvernance, qu'on va dire, dictatoriale. En principe, c'est le cas dans les sectes. Claude Vorillon décide-t-il de tout seul, ou est-ce qu'il existe un premier cercle de personnes qui ont des responsabilités et influencent ces décisions?
Alors, c'est une excellente question, parce qu'elle est au cœur du charisme, en fait, où, dans la théorie du charisme, il y aurait deux types de leaders. Un leader qui serait un leader complètement désintéressé, un leader religieux, et l'autre, un leader temporel. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est dans une organisation où, certes, il existe des techniciens qui échafaudent des stratégies raéliennes, mais on est dans une organisation charismatique, avec un grand leader qui décide véritablement
qui doit
de tout.
Et qui doit être l'incarnation, en fait.
Exactement. Exactement.
Certains se sont fait ériger des statues à leur propre effigie. Hein.
Oui, c'est le prophète.
À Castellane, notamment.
Ah bah exactement.
François-Xavier Baudouin, dans vos livres sur Raël, vous écrivez que Raël, donc de son vrai nom Claude Vorillon, recherche à tout prix la célébrité. Alors c'est une pathologie sociale assez répandue, hein. Ça a même poussé certains, la célébrité, à faire n'importe quoi pour être vu, pour être célèbre. Est-ce une des raisons qui pousse à Vorillon à revenir sans cesse à la télé et sur Internet, quitte à se faire ridiculiser, parce que c'est souvent le cas, quand même?
Alors, certains chercheurs disent justement que la célébrité constitue une valeur religieuse du mouvement. À savoir que son accession, le fait de détenir une forme de célébrité, jouerait pour accroître son autorité et son aura au sein du mouvement. Mais dans un deuxième temps, il y a bien sûr le fait de vouloir jouer à tout prix les prophètes subversifs pour attirer, justement, des chalons, en fait.
Et encore, il coche toutes les cases d'un gourou ou de secte. On sait que les gourous sont tous mégalos. Ça fait partie du portrait robot du gourou. Alors, on va passer à des choses qui sont plus graves, plus gênantes. La place des femmes dans le mouvement raélien est quand même très particulière. Certaines doivent jurer obéissance, exclusivité sexuelle à Raël. Là encore, on dit qu'il y a des gens tout à fait normaux, même des gens intelligents, des gens éclairés, des femmes qui doivent être éclairées sur la condition des femmes. Qu'est-ce qu'elle devient, là, la condition des femmes? C'est moyenâgeux, c'est digne des palais des Omeyyades, quoi, ou des Abbassides.
Alors, c'est très très ambigu, puisque d'un côté, ces adeptes, ces fidèles de Raël, ont l'impression d'être épanouis et ont l'impression d'être des femmes modernes qui s'assument et qui sont là pour répandre les valeurs de la féminité. Alors, voilà, les valeurs de la féminité, c'est pas forcément...
Dites ça aux femmes d'aujourd'hui, elles vont être contentes.
On est parfaitement d'accord. Donc c'est un mouvement parfaitement machiste, et où en fin de compte, on n'est pas dans des femmes qui seraient des esclaves sexuelles. Hein. Ce sont des femmes qu'on manipule de la manière suivante, à savoir, on va dire, mais qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui. Oh, tu m'as ébloui par ta beauté. J'aimerais, si tu m'autorises, partager avec toi un moment de sensualité. Je pense que tu es prête. Vous voyez ? On pense qu'elles sont prêtes. Autrement dit, c'est un honneur.
Donc, la question, est-ce qu'elles peuvent refuser, presque obsolète finalement?
Alors, elles peuvent refuser, bien sûr, hein, mais elles ne s'y refusent pas vraiment.
Alors, il y a dans cette affaire aussi le volet judiciaire. On voit qu'il y a quand même des soupçons de pédocriminalité. C'est absolument un crime. Il n'y a pas beaucoup de suites judiciaires. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là?
Alors, moi, quand je suis arrivé, moi, je n'ai pas vu de pédophilie, hein, rien du tout.
J'ai bien parlé de soupçons. Hein,
J'entends bien. Ouais. Et au contraire, le mouvement raélien luttait contre cette image en créant des sites internet comme Nos Pédos, en brocardant la pédophilie dans l'Église catholique. Alors, néanmoins, il y a eu vraiment des cas avérés, hein, des reportages le montrent bien, d'anciennes adeptes qui n'ont pas pu ou pas su témoigner, justement, puisque elles sont revenues sur leurs déclarations. Elles ont été complètement manipulées, en fait. Vous voyez ? Autrement dit, on est dans, encore une fois, dans l'ambiguïté dont les comportements induits, à commencer par le fait, par exemple, que Raël, ce qui est très fort, hein, s'est marié avec une jeune fille, Sophie, qui avait 17 ans, alors que lui, il en avait une cinquantaine, hein, avec l'accord de ses parents, ce qui était vraiment la faveur ultime.
Il y a aussi l'épisode du parc d'attractions Ufoland. Bon, c'est moins grave. Hein. UFO comme ufologie qui examine les phénomènes extraterrestres, ouvert en 95 au Québec, et depuis fermé, que s'est-il passé?
Alors, il a fermé simplement parce qu'il s'est retrouvé en faillite.
Oui,
voilà, aussi simplement que ça, et également parce qu'il y a eu un retournement dans le contexte québécois où finalement, à partir des années 2000-2004, le mouvement était complètement brocardé. Voilà, donc il y avait un mimétisme entre Ufoland et la fameuse ambassade que les Raéliens voudraient construire pour accueillir les Elohim. Voilà, justement.
Alors où on est Raël aujourd'hui? Existe-t-il des endroits où le mouvement est toujours puissant? Que sait-on de nombre de membres?
Alors, puissance, c'est très relatif. Hein. Puisque Raël prétend être présent dans 120 pays avec 150 000 membres, mais on est très loin de ces chiffres. Hein. Peut-être y a-t-il eu 30 000 baptêmes raéliens. Alors, le baptême raélien, ce qu'on appelle la TPC, la transmission du plan génétique, du plan cellulaire, pardonnez-moi, qui est en fait le fait d'envoyer par télépathie son code génétique aux extraterrestres. Donc là, c'est une forme de baptême. Peut-être qu'il y a 30 000 personnes qui sont passées par là. Bon, néanmoins, à tout casser, il y a entre 1 000 et 2 000 adeptes, hein, moi à l'Université du Bonheur en Europe, il y avait 450 personnes dans toute l'Europe présente, on en compte 500 en Japon peut-être, et 500 à peu près en Afrique, pas plus.
Et la prétendue fortune accumulée par Raël, prétendue ou réelle d'ailleurs?
En réel, hein, puisque moi quand j'étais sur place c'était 15 millions d'euros, là elle doit être environ de 20 millions d'euros, et Raël est lui seul à détenir les clés des comptes. Hein, voilà. Alors les Raéliens, peu de Raéliens finalement payent les 10%, hein. Raël est surtout entretenu par des Raéliens riches qui habitent au Japon, qui habitent en Suisse, etc.
Dernière question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur cette affaire-là? Les sectes en général vous intéressent?
Alors je pense que c'est quelque chose de fascinant.
Bien sûr que c'est fascinant, bien sûr.
Bien sûr, cette ambivalence, le charisme, la manipulation mentale, moi je trouve ça formidable.
L'emprise,
c'est absolument formidable. On fait de la sociologie, c'est la
formidable
discipline
à étudier.
Voilà, c'est la discipline qui essaie de comprendre les relations humaines. Voilà, je pense
donc
que
ça colle,
exactement.
Évidemment. Alors je rappelle, avant de nous quitter, je rappelle à tous nos auditeurs que le mouvement raélien fait partie de la liste des organisations surveillées par la MIVILUDE, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il fallait le répéter. Merci infiniment, François-Xavier Beaudoin. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.